Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux cyberattaques. À l'ordre du jour ce soir, Ukraine-Russie, quelle est l'importance de la cyberguerre? Le week-end dernier et dans les jours suivants, une attaque informatique massive par déni de service a atteint des sites du gouvernement français, quelques jours après les déclarations du président français sur le soutien à l'Ukraine. Car on l'oublie souvent, les cyberattaques s'ajoutent depuis quelques années aux opérations militaires classiques dans le cadre d'un conflit. Pour autant, depuis plus de 2 ans que la guerre s'est déclenchée en Ukraine, on peut dire que les raids de ce type ont été bien moins nombreux que prévu. Excusez-moi, en revanche, les autres parties prenantes de ce conflit ont récemment récupéré, par exemple pour la première fois, des documents secrets sur la stratégie de réélection de Vladimir Poutine en Russie, connue désormais sous le nom de Kremlin Leaks. C'est tout récent. Attaques et contre-attaques informatiques font donc partie désormais de la guerre contemporaine, sans que l'on puisse démêler ce qui relève de l'espionnage traditionnel ou encore de la guerre informationnelle moderne. Nous allons en discuter avec nos trois invités, avec Kevin Limonier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en géopolitique à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Vous êtes directeur adjoint de GEOD, le centre de recherche sur la géopolitique de la datasphère. Avec nous également Julien Nocetti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et au centre GEOD dont on vient de parler. Vous avez également dirigé un numéro des Annales des Mines sur la souveraineté numérique. Et troisième invité, Raina Stamboliskia. Vous êtes fondatrice de RS Stratégie, une société de conseil en cybersécurité. Vous êtes autrice de La face cachée d'Internet, publiée en 2017 aux éditions Larousse, et vous avez participé à ce même numéro des Annales des Mines que je viens de citer, dirigé par Julien Nocetti. Vous vous connaissez bien les uns et les autres, on va pouvoir développer cette question de la cyberguerre avec vous trois.
Panique dimanche soir et hier dans plusieurs ministères.
Les mails ne passent plus, ça communique plus, on arrive à échanger par SMS en mode dégradé.
Des cyberattaques d'une intensité inédite ciblant Matignon, des ministères et des sites internet comme celui du Conseil d'État ou des Journées du Patrimoine. Les services du Premier ministre ont depuis assuré que leur impact a été réduit et l'accès au site internet de l'État rétabli. Sur Telegram, plusieurs groupes de hackers ont revendiqué ces attaques. Parmi eux, Anonymous Sudan, soutien de la Russie et de plusieurs causes islamistes.
Ce sont des attaques qui vont paralyser les sites internet, qui vont faire ralentir le fonctionnement des systèmes. À ma connaissance à date, il n'y a pas d'intrusion dans les réseaux des différents ministères, il n'y a pas de vol de données. On est face à ce qu'on appelle des attaques de surface, des attaques qui sont vraiment plutôt idéologiques pour faire parler d'elles.
Matignon a indiqué qu'une cellule de crise avait été activée pour déployer des contre-mesures et garantir la continuité des services informatiques.
C'était un reportage de France Info hier sur les cyberattaques contre des services de l'État français. Est-ce que cela fait partie justement de la cyberdéfense? Est-ce que c'est tout autre chose? Qu'est-ce qu'on peut en dire, Kevin Limonier?
Alors ce qu'on peut en dire, c'est que cette attaque qui a eu lieu, c'est le niveau zéro, en tout cas, de l'agression cybernétique, puisqu'une attaque par déni de service consiste à ne détruire aucune infrastructure, aucune donnée, à ne compromettre aucun système, mais plutôt à le mettre
engorger des systèmes
hors d'état de fonctionner, un laps de temps plus ou moins court. Et effectivement, comme il vient d'être dit, c'est une attaque, alors moi je dirais pas idéologique, mais plutôt géopolitique, dans le sens où son objectif est de marquer les esprits. Son objectif est avant tout symbolique, puisqu'il s'agit ici de s'attaquer à des ministères d'un État qui, aujourd'hui, s'exprime de manière plutôt vocale, pardonnez-moi l'anglicisme, contre la Russie.
Mmh. Raina Stamboliskia, est-ce que c'est de la cyberguerre ou ça n'est pas de la cyberguerre?
Alors, j'ai un avis assez tranché sur la question.
Ben allez-y, donc, donnez-le.
Je vois mes collègues sourire. Pour moi, en fait, on ne nomme pas une guerre parce qu'on utilise un moyen particulier dans le cadre de cette guerre. Donc, c'est le moyen numérique, dans ce cas, les moyens de lutte informatique, offensive ou de lutte informationnelle, si vous voulez. Ce sont des compléments de force. L'idée, en fait, c'est que quand vous menez une guerre, qui est une extension, en fait, de problématiques et de tensions qui existent déjà entre dans le domaine politique et diplomatique, ce que vous faites quand vous menez une guerre, c'est vous avez vous recherchez un état final. Par exemple, la Russie aimerait soumettre l'Ukraine, l'annexer ou la morceler et installer des dirigeants qui lui sont soumis. Par exemple, ça, c'est l'état final. Est-ce que vous ferez, en fait, pour parvenir à vos fins, donc à cet état final, ce sont plein d'actions Et donc certaines seront de nature cyber. Là, vous pouvez avoir de l'exfiltration de données, par exemple. Soit pour préparer, on a par exemple vu beaucoup d'événements de ce type, donc d'exfiltration de données en préparation à l'invasion, mais on en a vu aussi pendant. Et donc ce sont généralement, contrairement à cette histoire de mise en indisponibilité des sites des ministères, ce sont des choses qui se passent de façon extrêmement silencieuse, parce que votre objectif, c'est pas de dire à tout le monde « Coucou, c'est moi !»
Oui, c'est ça la difficulté, effectivement, c'est que quand on entre dans ce secteur cyber, on s'aperçoit bien, effectivement, qu'il y a une difficulté à le nommer, parce que quand on arrive au stade où ces attaques sont peut-être bien plus importantes et peut-être bien plus silencieuses, eh bien, la plupart du gens, d'entre nous ne le sait pas, Julien Nocetti.
Bien sûr, et c'est là, en fait, où les moyens numériques sont très commodes pour des assaillants, hein, que ce soit des États, des proxys, donc c'est-à-dire des acteurs intermédiaires qui ont des loyautés à géométrie variable par rapport aux États, et des acteurs cybercriminels, certains d'entre eux étant soit purement privés ou d'autres ayant des relations diverses là aussi avec des appareils étatiques. Donc c'est bien là où ces outils, ces moyens, ces acteurs seront utiles à certains moments de la vie internationale pour aller perpétrer telle ou telle action contre des cibles diverses et variées. Ce qui me conduit juste à une petite remarque sur ce que disait Kevin sur les attaques ayant visé tout dernièrement
les
ministères voilà, en France, tout à fait. C'est vrai que le contexte politique est à prendre en compte. Et là, pour rappel, c'est vrai que si besoin en est, la combinaison du positionnement plus vif de Paris sur la question de la guerre d'Ukraine, la perspective des élections européennes en juin et des JO de Paris cet été dessine voilà un panorama qui peut donner une forme voilà de moment un peu opportun pour aller commettre des cyberattaques. Et sur le thème de cyberguerre, c'est vrai que là, on est en sciences sociales, le mot de guerre comme le mot d'arme renvoie à des choses très concrètes. Donc il faut avoir un peu de mesure sur le sens à donner à cette supposée cyberguerre qui, selon certains, serait à la fois permanente, massive, globale et qui nous plongerait au bord de l'abîme par des outils numériques. Donc voilà.
Kevin Limonier.
Oui, alors moi je me permets de rebondir sur ce que Raina disait. Moi je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit et je vais en profiter d'être à l'antenne pour faire un peu la pub de la géographie parce que je crois que vraiment il faut qu'on pour comprendre la dimension numérique des conflits puisque là on parle plus de dimension numérique des conflits plutôt que de cyberguerre, il faut bien comprendre la continuité qui existe entre d'une part les actions qui sont commises dans le cyberespace et d'autre part la territorialité des conflits. C'est-à-dire que le cyberespace n'existe pas comme ça, tout seul, flottant, dans l'air, quelque part, malgré ce que certaines personnes peuvent encore affirmer aujourd'hui. C'est une chose extrêmement concrète, extrêmement géographique, hein, on peut parler
relié à des territoires,
relié à des infrastructures qui permettent elles-mêmes de faire passer des informations, qui sont des mots d'ordre, disait Deleuze, qui vont ensuite permettre de produire des représentations géopolitiques, qui vont produire des guerres, etc. Donc en fait, il faut vraiment penser l'action dans le cyberespace comme une sorte de continuum de l'espace physique. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre centre s'appelle Géopolitique de la Datasphère. Parce que nous considérons la datasphère, on a choisi ce mot un petit peu en référence à les différentes couches de l'atmosphère terrestre, etc., comme si c'était finalement une nouvelle couche qui venait se superposer à la réalité du monde physique, mais qui n'en est pas déconnectée, mais qui a une interaction permanente avec ce monde physique.
Et cela, pourrait-on dire, Raina Stamboliska, c'est tout de même quelque chose d'assez particulier, parce que on a imaginé, peut-être parce que il y avait déjà une antériorité, que la Russie, mais aussi l'Ukraine, étaient des combattants particulièrement aguerris dans ce domaine, et que une fois la guerre déclenchée en Ukraine par l'attaque russe, eh bien, on avait là des possibilités nouvelles de guerre, en imaginant d'ailleurs très vite, dès que cette attaque a eu lieu, que ça serait un théâtre nouveau d'opérations dont on pourrait mesurer justement l'ampleur de l'usage du cyber. Or, je ne vais pas dire que, et on n'est jamais déçu par une guerre, hein, mais que ça n'a pas été à la hauteur de ce qui avait été imaginé par certains stratèges. Il n'y a pas eu véritablement un usage très offensif, très multiple, très fort du cyber dans le cadre de cette guerre depuis 2 ans.
Alors, oui et non. Alors, je vais parler comme un avocat. Ça dépend. Ce que j'entends par là, c'est je, dans le prolongement aussi de ce qui a été dit, notamment par Kevin à l'instant, c'est on a en fait des aspects qui sont liés à l'efficacité d'un outil. Et que souvent, de façon grandiloquente, ce qu'on entend, c'est « Oh là là, la cyberguerre, on va tous mourir, on va détruire des infrastructures critiques en appuyant sur un bouton, etc. » Tout ça, c'est un film. Et j'ai envie de dire, c'est assez cynique ce que je veux dire, mais quand vous pouvez en fait bombarder une centrale électrique, qu'est-ce que vous allez vous embêter à mobiliser des équipes de personnes pendant des mois et des mois à faire quelque chose que de toute façon une personne devra aller poser physiquement dans la centrale pour en fait espérer que peut-être ça marchera comme et ça fera l'effet escompté. Donc vous avez en fait des sujets qui sont liés beaucoup aux effets escomptés et maîtrisés. Est-ce que je peux maîtriser un effet ? Parce que on ne fait pas, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement souvent décevant, c'est que on s'imagine quelque chose de l'ordre du magique, mais l'effet d'un logiciel malveillant, souvenez-vous de WannaCry en 2017. Ça faisait partie de ce conflit larvé, en fait. C'est en tout cas l'attribution qui en a été faite, donc d'un rançongiciel qui a été envoyé soi-disant de la Russie vers l'Ukraine. C'est en tout cas l'hypothèse acceptée aujourd'hui. Et qui, en fait, s'est tellement réparti dans le monde que ça a mis sur les genoux le système britannique de santé, par exemple. Et donc, c'est cet aspect-là, cette maîtrise-là, qui est extrêmement complexe. Donc, il ne faut pas, en fait, s'imaginer que puisque c'est un ordinateur, on fait ce qu'on veut. Et souvent, les moyens traditionnels, en tout cas à l'heure actuelle, les moyens traditionnels
sont plus efficaces,
sont plus fiables aussi en termes d'impact.
Julien Nocetti.
Effectivement, c'est vrai que il y a eu certains espoirs déçus avec de gros guillemets sur cet apport ou sur cette perspective d'une cyberguerre de grande ampleur au moment de l'invasion russe de l'Ukraine. Moi, j'aime bien rappeler en fait les propos de Keith Alexander, qui pendant des années avait été le commandant du Cyber Command américain et de la NSA, donc l'agence de renseignement électronique des États-Unis, qui en connaît un rayon quand même en la matière.
Normalement, quand on est à ce poste-là, on en connaît beaucoup.
Voilà, exactement. Et qui, dans le Financial Times, juste au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avertissait tous de l'imminence de cette cyberguerre massive et qu'il fallait consacrer des moyens justement à parer aux attaques qui allaient survenir. Bon, il s'est rien passé de tel en apparence, même si en fait il faut bien avoir à l'esprit que dans les premiers mois de la guerre en 2022, on a été dans une phase de haute intensité, le retour de la guerre de haute intensité avec des moyens militaires évidemment sophistiqués, avec un recours massif à l'artillerie de la part des Russes, etc. Ce qui a possiblement donné moins de valeur pour les parties prenantes au conflit, et notamment ici en l'occurrence de la part de la Russie, pour recourir à l'outil cyber. C'est aussi certainement une dimension d'opérationnalisation. Il faut avoir à l'esprit que quand une cyberattaque émane d'un État, dans certains cas, une cyberopération, pardon, ça prend un certain temps avant de se mettre en place. Et là, l'exemple qui peut-être est le plus illustratif, c'est celui de Stuxnet, le fameux virus qui avait ciblé le fonctionnement des centrifugeuses uranium en Iran en 2010, et qui est une opération conjointe israélo-américaine, et qui avait mis 3 ans pour se mettre en place entre la décision de mener l'opération et la réalisation d'effets concrets sur le terrain en Iran. Donc il faut avoir ça à l'esprit, que certains espoirs déçus aujourd'hui, on pourra retrouver des effets ou certaines affaires, soit de cyberespionnage ou d'attaque plus tard.
Oui, qu'est-ce qu'on en sait finalement, Kevin Limonier ?
De
cela, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut en savoir de là où on se trouve, de là où vous vous trouvez en tant que chercheur au directeur adjoint de Géode. Est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas dans une sorte de brouillard de la guerre, comme on le disait dans d'autres moments?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Julien, et pour répondre aussi à votre question, il y a une autre hypothèse qui commence de plus en plus à se vérifier pour expliquer pourquoi cette cyberguerre n'a pas eu lieu. Alors déjà, ça nous renvoie d'ailleurs au concept de violence dans la guerre, c'est-à-dire qu'une maternité bombardée, c'est toujours beaucoup plus marquant et traumatisant qu'un disque dur qui crame. Mais blague à part, il y a aussi une autre chose qui est que pendant longtemps, les Occidentaux occidentaux se sont un petit peu fourvoyés sur la puissance russe, et notamment sur sa puissance cybernétique. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai répété pendant très longtemps. Mais il faut bien voir qu'à partir de 2016, et qui a été un choc vraiment majeur pour les puissances occidentales lorsque les Russes s'immiscent dans la campagne électorale américaine, on va avoir une espèce de bulle spéculative sur la Russie qui va se mettre en place, notamment au sein du complexe militaro-industriel américain, avec des sommes absolument gigantesques pour financer justement un complexe cyber pour l'attribution, etc., etc. Et à cette époque-là, si on voulait obtenir des fonds, il fallait d'une certaine manière
rentrer dans le jeu.
Il fallait attribuer aux Russes. Et de cette manière-là, je crois que nous avons à un moment créé une bulle spéculative sur notre représentation et notre évaluation de la cyberpuissance russe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace russe. Ça veut dire que probablement on l'a mésestimée par tout un tas de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça pour vous
Qu'est-ce que vous voulez dire, on l'a mésestimée?
On l'a mésestimée dans le sens où on voit bien que des grands stratèges se sont trompés. On voit bien que dans la représentation populaire, la cyberguerre, c'était des usines qui explosent, c'était des centrifugeuses qui
c'était
se mettent
une,
à faire n'importe
une usine
quoi.
Nucléaire, une centrale nucléaire qui allait exploser ou ne plus tourner.
Tout à fait, sauf que quand on regarde de la réalité des faits, c'est que une bonne partie des cyberattaques qui sont mises en place par la Russie aujourd'hui ou par des acteurs qui sont alignés sur les intérêts russes, c'est des dénis de service, c'est-à-dire quelque chose qui est techniquement...
Ce qu'on a connu donc ce week-end pour la France, par
exemple. Voilà, qui est quelque chose de techniquement extrêmement peu sophistiqué.
Sur ce point, Raina Stamboliska.
Oui, alors il ne faut vraiment jamais oublier que la peur, il y a le dicton que les yeux de la peur sont grands. C'est ce que en fait Kevin vient de dire. C'est on connaît finalement assez peu des capacités réelles. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez compter le nombre de missiles, le nombre de chars, etc. Enfin, ça vous y arriverez. Mais le capacitaire cyber numérique, en fait, c'est extrêmement complexe parce que on peut pas en fait aller prendre un
Non, bien sûr, on avait cette image des fermatrolles, etc., etc., qui a d'ailleurs nous a accompagnés depuis longtemps, puisque c'était bien avant le début de la guerre en Ukraine, mais qui nous a accompagnés aussi depuis le début de la guerre en Ukraine, sans trop savoir d'ailleurs ce que c'était. On savait que voilà, ça dépendait de Prigojine peut-être, etc. On n'en savait pas grand chose.
On en savait quand même beaucoup, mais il y a une grande différence entre est-ce que je suis en capacité de faire un Stuxnet bis.
Donc ce logiciel,
qui a attaqué les centrifugeuses iraniennes, et dont d'ailleurs on a découvert l'identité de la personne qui a physiquement implanté le ver que cette année, là en janvier, c'est sorti. Donc on parle de 2010. Donc il y a beaucoup de choses et les capacités réelles de qui sait faire quoi et qui peut faire quoi et qu'est-ce qui vient à la fin. Donc, est-ce que l'effet de ce que je peux faire, il est vraiment celui-là? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est extrêmement complexe. Et avant de passer la parole à Julien, j'aimerais bien qu'on distingue en fait la notion d'attaque informationnelle, si vous voulez, sur le volet informationnel, du reste qui est plus techniciste, un disque dur qui crame, des données exfiltrées, etc. Dans la doctrine russe de 2000, c'est donc très tôt, on a une notion de défense de l'identité nationale, patriotique, culturelle, historique et tout ce que vous voulez sur le volet informationnel. C'est-à-dire que rien ne doit en fait porter attente
à cette idée,
à ce qu'on incarne et à la façon dont on projette sa puissance aussi.
Un exemple, par exemple, puisqu'il est 18h40 sur France Culture, que vous écoutez Ukraine-Russie, quelle est l'importance réelle de la cyberguerre? Eh bien, c'était en 2007 en Estonie.
Personne en Estonie n'a oublié ces journées d'avril 2007. La capitale connaît alors des manifestations sans précédent. Les habitants russes de cette ancienne république soviétique se révoltent contre le déboulonnage de la statue d'un soldat de l'armée rouge au centre de Tallinn. Un mort et une centaine de blessés. Dans les semaines qui suivent, le pays va connaître une vague d'attaques cybernétiques massives qui ont marqué le responsable du centre de protection des systèmes informatiques d'État.
Le Parlement a été pris pour cible. Le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Tout était visé, la police, les pompiers. Il y a eu aussi ces deux énormes embouteillages. Pour ça, c'est pas très difficile. Il suffit d'envoyer un SMS à ses amis, qui vont l'envoyer à leurs amis en leur demandant d'arrêter leur voiture demain, à midi exactement. Pour arriver à faire tout ça, il faut au moins une centaine de personnes.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
C'est peut-être d'ailleurs de là que vient cette réputation en 2007, donc une cyberattaque en Estonie. C'est un reportage de France 3. Nous en avons parlé d'ailleurs avec l'ancienne présidente estonienne dans l'émission de vendredi dernier, puisque nous avions l'ancienne présidente estonienne pour nous parler de la situation de ce pays aujourd'hui. Julien Nocetti, est-ce que justement cette réputation un peu usurpée, visiblement d'après ce que disent les autres participants à cette discussion, est-ce que cette réputation forte en tous les cas vient justement de ce type d'attaque qui a surpris tout le monde en 2007, par exemple, pour l'Estonie?
Effectivement, c'est vrai que c'est un peu le premier cas d'étude bien documenté de cyberattaque qui, si elle n'était pas forcément toute sophistiquée, ont quand même eu un effet symbolique et psychologique.
Et dans un contexte où, effectivement, il y avait une dimension politique, puisqu'il s'agissait de protester et de défendre la minorité russe au sein de l'Estonie à un moment où on voulait déplacer une statue.
Des tensions très vives au sein de l'espace post-soviétique. L'Ukraine s'en souvient aussi après des crises énergétiques à répétition avec Moscou. 2007, c'est aussi le discours de Poutine à Munich. Donc, il y avait déjà un contexte de raidissement de la partie russe qui était quand même assez notable. Je voulais juste peut-être revenir très rapidement sur cette idée de séparation qu'on a pu faire pendant très longtemps dans les pays occidentaux entre ce qui relève du cyber d'un côté et de l'informationnel de l'autre. Mmh. Vous évoquiez tout à l'heure les fermes de trolls. Mmh. C'est vrai que pendant très longtemps, dans nos pays occidentaux, on mettait davantage d'accent effectivement sur une conception plus techniciste, technologique de ces sujets. Et c'est vrai que le volet influence, façonnement des perceptions, jouer sur parfois aussi la cognition humaine, était quelque chose qui était largement sous-estimé, même si c'était connu des personnes et des services compétents, mais globalement, notamment dans le champ académique, c'était vraiment pas la préoccupation
des chercheurs
et des institutions qui pouvaient financer des études. Donc ça, c'est un point important parce qu'effectivement, depuis l'élection américaine de 2016, on est largement revenu sur cette espèce de trauma qu'a constitué la séquence électorale aux États-Unis et à tel point qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays occidentaux, cette séparation entre le cyber et l'informationnel est de moins en moins nette.
Oui. Donc, Kevin Limonier, sur ce point, parce que c'est extrêmement intéressant de tenter de distinguer, puis en même temps de se dire, ce qu'on fait, c'est peut-être deux faces d'une même médaille.
Oui, c'est même capital parce que à trop penser la partie, on va dire, cybertechnique comme décorrélée du reste.
C'est-à-dire d'une guerre d'information.
D'une guerre de l'information et même, je veux
d'un
dire,
soft power, etc.
Voilà, d'un conflit en général, on risque en fait d'enfermer la chose dans justement une technicité qui serait accessible uniquement à quelques initiés et donc à ne plus percevoir en fait les enjeux politiques qui sont sous-jacents. Par exemple, sur cette histoire de l'Estonie, qui est vraiment un cas d'école. Effectivement, c'est le déplacement d'une statue, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça dans l'ordre symbolique des choses, puisque la cible vraiment technique des Russes à cette époque-là, c'était un système qui s'appelait X-Road, qui était en fait la dorsale finalement des services publics dématérialisés estoniens. On est en 2007. Mmh. Hein, en France à l'époque, on n'avait pas de services publics dématérialisés.
Et
pourquoi les Estoniens en avaient des services publics dématérialisés à l'époque? Parce que tout le projet géopolitique de l'Estonie post-soviétique après 91
a été de devenir
une sorte de Singapour de la Baltique, comme ils le disaient eux-mêmes.
Cyber.
Et donc en ciblant vraiment ça, si vous voulez, c'était vraiment en plein dans le mille sur le projet. Enfin, je veux dire, c'était vraiment cibler le talon d'Achille du projet géopolitique estonien.
Ça veut donc dire qu'il ne faut pas séparer, d'une certaine manière, ce cyber de la propagande classique?
C'est un continuum d'une certaine manière puisque la propagande, moi on préfère parler de manœuvre informationnelle parce que c'est un terme qui nous permet d'englober plus de choses. À 99% dans 99% des cas, ça passe par des plateformes d'intermédiation, c'est-à-dire des réseaux sociaux, etc. Le web, qui lui-même passe par des protocoles, qui lui-même passe par des câbles, et tout ça constitue en fait l'architecture de l'internet et que donc les infrastructures joue un rôle extrêmement fort et essentiel dans la diffusion de l'information. Et donc tout ça est lié.
Reina Stamboliska.
Oui, je vais dire un gros mot. C'est, on parle aussi souvent de menaces hybrides quand on parle de ça. C'est, voilà. Ah oui, je sais, Julien, pardon.
Parce que Julien Nocetti n'aime pas le terme de menace hybride ou quoi?
Le terme a été discouru à l'envi pendant des années et certains y ont accolé des choses extrêmement différentes et c'est vrai qu'on est depuis revenu avec un peu de bonheur sur ce terme-là qui est peut-être un peu confus.
Mmh. Voilà, d'où mon, je vais dire un gros mot, mais voilà. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que pour reprendre un peu cette histoire de service public dématérialisé, là, ce qui s'est passé ce week-end, entendons-nous bien, d'un point de vue cyber, on se noie dans un verre d'eau.
Oui. C'est...
Parce que vous n'allez pas me dire qu'un dimanche après-midi, la population française, elle se précipite sur le site du Conseil d'État. Par contre, c'est le site du Conseil d'État. Et donc, c'est là où on est dans un truc qui est assez flou, qui est en fait, ça dépend vraiment de qui en parle. Parce que, bien sûr que les Français ne sont pas tous sur le site du Conseil d'État, mais c'est le Conseil d'État, c'est un symbole. Et donc, quand vous voulez aussi intervenir sur les représentations, sur les symboles, et que vous le faites faire par des acteurs qui, là, dans ce cas, sont prétendument non étatiques, mais quand même de connivence avec...
C'est les Anonymous Soudan, c'est
ouais,
ça
enfin, voilà.
C'est comme moi, ça qu'ils ont signé, mais de toute façon, on ne sait rien.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait un claquage de neurones quand ils ont entendu que ce sont des gens avec proches pro-Kremlin qui défendent des idées islamistes. Enfin, voilà, donc...
Et pourtant,
voilà. Et donc, on a aussi une résurgence de groupuscules comme ça qui sont soi-disant non étatiques, donc des acteurs qui ne sont pas des services secrets ou autres, mais qui en fait sont assez liés à des services secrets. Donc on a, si vous voulez, aussi un bras comme ça articulé.
Manipulable à distance.
Voilà, manipulable à distance, qui permet d'agir sur le volet des symboles.
Mais alors, il y a quelque chose qu'on oublie, parce qu'on a titré Ukraine-Russie, quelle est l'importance réelle de la cyberguerre ? Il y a tout de même un autre acteur qui s'appelle l'Ukraine et qui n'était pas non plus le dernier à mener des opérations de déstabilisation avant même le début de ce conflit, Julien Nocetti. Quelle est la capacité de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky, dans ce domaine-là? En quoi sont-ils responsables d'autres types d'attaques que les attaques qui sont attribuées à la Russie? Qu'est-ce qu'on en sait de cela aussi?
Il ne faut pas perdre de vue que depuis 2014, l'Ukraine en sait quand même assez long sur les modes opératoires de la Russie. Hein. Et puis là, je ne remonte pas forcément à toute la période post-soviétique où là, il y a eu aussi des connaissances, des transferts de savoir entre officiels russes, ukrainiens, services compétents, etc. Mais sur la période vraiment récente qui nous intéresse, effectivement, cette connaissance des préférences tactiques russes en matière de subversion, de déception de l'adversaire, et puis aussi par rapport à certains acteurs de la menace russe, notamment par rapport à certains groupes cybercriminels, il y a effectivement une connaissance qui a été mise à profit. Donc l'Ukraine n'est pas le dernier des naïfs en matière de conflictualité numérique, ça c'est tout à fait certain. Vous avez aussi un pays qui, jusqu'au lancement de l'invasion de la Russie, accueillait une quantité d'experts techniques, d'ingénieurs de très grande qualité. Certains sont évidemment ont quitté le pays et d'autres sont restés aussi pour contribuer au moins en partie, à la remédiation technique au profit de l'appareil de cyberdéfense ukrainien. Et ça, c'est un point qui est peut-être passé un peu de côté, parce qu'on s'est aussi beaucoup focalisé sur la menace russe dans le champ numérique. Donc ça, c'est aussi peut-être un effort de recentrage de la focale.
Oui, justement, Kevin Limonier, sur ce point.
Alors, la guerre en Ukraine illustre vraiment, à mon sens, la continuité qu'il y a entre opérations cyber et opérations, on va dire, militaires classiques, territoriales. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, lorsque les Russes prennent une ville, un village, une des premières choses qu'ils font, c'est de déconnecter en fait les réseaux
pour les reconnecter
de la province, pour les reconnecter sur les réseaux
télécoms
russes. Pourquoi ils font ça ? Parce que en faisant ça, déjà, vous évitez que vos flux.
C'était arrivé en Crimée.
Justement, la Crimée a été le premier cas de stratégie, on va dire, d'occupation territoriale pensée qu'on va prolonger sur la question du routage des données, en fait. Mais pourquoi ils font ça ? Parce que en reconnectant, déjà, vous évitez de de passer par l'Ukraine et donc vous évitez un potentiel espionnage électronique, mais également parce que vous placez de fait les populations de ces territoires occupés en fait sous derrière une double ligne de pare-feu qui font que toute une partie de l'internet ne vous est plus accessible, et notamment la partie qui diffuse, on va dire, des informations selon un régime de vérité qui contrevient à celui que le Kremlin a envie que les gens entendent. Les Russes ont même trouvé un surnom pour ça, c'est Tchebournet. C'est un peu le net rabougri, bref.
C'est en relation avec quoi? Avec un dessin animé?
Avec Tchebourashka, effectivement, qui était la mascotte notamment des JO et un personnage de dessin animé russe. Bon, bref, il y a un jeu de mots derrière, mais bref. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que côté ukrainien, quand les Ukrainiens reprennent un village, pareil, moi, une des premières choses qu'ils font, c'est de reconnecter le territoire à leur réseau à eux, ce qui, en fait, change totalement la manière dont les habitants vont pouvoir communiquer, s'informer, se mobiliser, si bien que la ligne de front, qui est une ligne de front physique, elle est complètement numérique, et c'est vraiment une ligne de partage des eaux, mais qui est même informationnelle. Et là, on voit bien, en fait, comment les infrastructures deviennent également des infrastructures cognitives, au sens où leur manipulation empêche les gens de s'informer librement.
Raina Samboliska.
Oui, il y a un vrai... Enfin, le secteur du numérique en Ukraine, c'est... Enfin, la France peut un peu envier le secteur florissant du numérique en Ukraine. Et ce qu'on a vu aussi dans ce nouvel écosystème...
Avant la guerre ou depuis la guerre?
Les deux, mon capitaine. Et en fait, ce qu'on a vu, là, ce que Kevin vient de dire, on a vu aussi plein d'applis surgir, alors que, franchement, l'âge d'or des applis mobiles, de civiques, on va dire, il est un peu passé. Là, on a vu des choses sortir de terre, qui étaient de l'appli pour chercher les enfants kidnappés par l'armée russe et, en fait, amenés en Russie pour... refonte, pour adoption et acculturation, disons, jusqu'aux applis pour identifier les positions ennemies, etc., etc. Ce qui pose plein d'autres questions et plein d'autres problèmes derrière, quant notamment au sujet de distinction entre combattants et non-combattants. Ça, Julien pourra en parler aussi un peu plus, parce que c'est plus son domaine. Mais on a, en fait, quelque chose, on a une créativité qui se fait et qui est complètement outillée, qui ne se fait pas comme ça au pif, parce qu'on veut faire
des
choses.
C'est une créativité qui est, j'imagine, stimulée par le gouvernement ukrainien.
Et c'était exactement ça, et qui est aussi amenée et encouragé par le gouvernement ukrainien, dont notamment un de ces exemples le plus frappant, c'était l'IT Army of Ukraine, qui sont donc des contingents de bénévoles partout dans le monde, qui est une vraie nouveauté aussi de cette guerre, qui en fait font des opérations cyber contre la Russie, dans un cadre légal un peu complexe.
Ce sont des opérations qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement sophistiquées. Hein. Ça peut être vous, moi, ce soir, qui allons via une boucle sur Telegram, sagement obéir, et puis aller commettre une opération de hack and leak qui visera à faire fuiter les données du ministère russe de la Défense ou de des sociétés. Ça, ce sont des choses qui sont produites.
D'ailleurs, on ne sait pas comment les Kremlin leaks dont je parlais au tout début sont sortis de et ont pu arriver dans un site informatique, enfin un site d'information estonien.
Non, absolument. Et c'est là où vous avez une sorte de brouillage permanent. Vous parliez tout à l'heure du brouillage de la guerre. Mmh. Effectivement, là, on est à un niveau de brouillage des acteurs où la pratique de la guerre redescend au niveau des individus et chacun, moyennant le franchissement d'un coût d'entrée qui est technique, qui n'est pas non plus énormissime, peut avoir un effet à un moment donné sur le cours du conflit. Et juste sur l'IT Army que Ryan a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que là, on est dans un flou juridique qui est quand même assez colossal.
C'est pas autorisé théoriquement.
C'est vrai que la responsabilité.
Il faut le dire.
La responsabilité
ça n'existe pas au
de ces combattants qui ne sont pas des combattants, mais peut-être que si. Effectivement, et suite à question. Donc là, c'est un sujet pour les juristes. Pour le coup, on aura peut-être une émission par la suite. Mais ce qui est aussi frappant dans le contexte ukrainien, c'est que là, on a affaire depuis des années, des décennies à un pays qui a été très largement ouvert, finalement, qui était très interdépendant du reste de l'économie technologique mondialisée. pour le coup, avec des flux de données, avec une partie du ce qu'on appelle le back-office des grandes sociétés qui est présente en Ukraine, et puis surtout la participation active des grands acteurs de la tech américaine, aussi dans la remédiation technique.
Ce qui n'est pas le cas de la Russie aujourd'hui, Kevin Limonier.
Alors absolument, absolument pas.
Parce que là, c'est fermé sur un système propre, d'une certaine manière.
Tout à fait, et d'ailleurs, c'est toute l'ambition des autorités russes depuis au moins 2012, pour plein de raisons, affaire Snowden, le fait qu'en 2011-2012, je rappelle que des dizaines, voire des centaines de milliers de Russes descendent dans la rue pour refuser un troisième mandat à Vladimir Poutine, et qu'au Kremlin, on a encore le souvenir de la place Tahrir et des printemps arabes dans lesquels les réseaux sociaux ont joué un rôle important, et à ce moment-là, les Silaviki, c'est-à-dire les gens issus des organes de force qui captent le pouvoir en Russie depuis 25 ans, ont senti le vent du boulet passer pas très très loin. Et une de leurs décisions, ça va être justement de prendre le contrôle de l'Internet en produisant cette espèce de représentation géopolitique du Runet, c'est-à-dire de l'Internet russophone qui existait dans les années 2000 en tant que réalité culturelle. Le Runet, c'était un peu l'underground de l'Internet, et qui vont progressivement mettre au pas et qu'ils vont progressivement placer sous contrôle, notamment avec des plateformes d'intermédiation dont on va exproprier les propriétaires légitimes, comme Pavel Durov par exemple avec VK, Vkontaktier, mais également et surtout, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que la Russie a un des réseaux au niveau logique, en fait, au niveau des connexions, qui est en fait un des plus complexes du monde, en fait. Pourquoi ? Parce que dans les années 90, il s'est développé de manière très décentralisée, anarchique, etc., quand nous, on a un réseau très centralisé en France.
En France, bah, on a eu France Télécom, donc.
Voilà, on a eu France Télécom, effectivement. Ils ne l'ont pas eu. Et donc, pour contrôler un réseau comme ça, il faut que vous placiez des boîtiers un petit peu partout sur votre réseau, que vous puissiez ordonner directement sans passer par les opérateurs pour filtrer tel ou tel contenu. Et ça, c'est une vraie innovation que les Russes ont mis en place, qui est vraiment
plus pour surveiller leur propre population.
Alors, qui est fait vraiment pour filtrer ce qui entre et ce qui sort. C'est des postes frontières numériques, vraiment. C'est vraiment comme ça qu'ils les ont pensés. Et c'est une technologie qu'ils vont bientôt être en capacité d'exporter. Ce qui pose d'énormes questions sur,
En tout cas, sur l'idée d'un Internet libre et ouvert.
Ah, mais même sur l'idée d'un Internet tout court. C'est-à-dire que là, on n'est pas très loin d'une espèce de point de rupture où l'Internet, en fait, se scinde en plein de morceaux qui ne seront jamais complètement séparés parce qu'il y a des flux financiers,
mais qui ne seront jamais totalement connectés.
Mais qui ne seront jamais totalement connectés, effectivement.
Merci en tous les cas à tous les trois de nous avoir expliqué très précisément ce qu'il en était de cette notion de cyberguerre que vous avez évidemment démontée d'une certaine manière, mais qui nous permet de mieux comprendre la situation actuelle. Merci à vous, Kevin Limonier. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en géopolitique à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et directeur adjoint de GEOD, le centre de recherche sur la géopolitique de la datasphère. Julien Nocetti, vous êtes chercheur associé à l'IFRI et vous êtes également au centre GEOD et vous avez dirigé un numéro des Annales des Mines sur la souveraineté numérique qu'on peut, j'imagine, trouver si on s'intéresse très précisément à cette question-là. Et Raina Stamboliska, vous êtes fondatrice de RS Stratégie, une société de conseil en cybersécurité. Vous avez participé à ce numéro donc des Annales des Mines dont je parlais à l'instant. Même. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégy, Roxane Poulin, Fanny Richet, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Alex Dang.